et format A3 jette un œil dans les assiettes ce matin.
Alors, quelles sont les dernières recommandations en matière de nutrition? Quelles sont les vieilles idées reçues qu'on ne peut pas oublier? On en parle avec la nutritionniste Séverine Chadel. Bonjour.
Bonjour. Alors, on se souvient tous de la fameuse pyramide alimentaire qu'on nous a inculquée à l'école. Les boissons tout en bas, ensuite les féculents, ensuite la verdure, après ça, les produits laitiers au même niveau que la viande et le poisson. Enfin, les sucres et les matières grasses, c'est toujours d'actualité, ça?
Oui, la pyramide n'a pas beaucoup changé dans ses grandes lignes. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont lieu ces derniers temps. Et puis de là, on affine un petit peu les recommandations. Mais la pyramide reste dans le même ordre que celle que vous avez connue à l'école.
Alors, on avait tout à l'heure avec nous Noémie Ognat qui nous parlait de son amour pour la crème double de la gruyère. La crème double de la gruyère, elle est toujours tout en haut de la pyramide.
Elle est toujours dans le groupe des matières grasses.
On n'arrive pas à inverser les choses.
Vous pouvez la renverser, mais elle reste toujours en haut.
Mais la crème, on ne va pas la renverser.
Non, ça serait dommage.
Il y a les bonnes et les mauvaises graisses qu'on distingue aujourd'hui. C'est quoi la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses?
En fait, cette distinction, elle provient notamment des différentes études qui ont eu lieu sur la diète méditerranéenne par rapport aux maladies cardiovasculaires, à la diète crétoise. Et puis, c'est vrai qu'on se rend compte que dans les graisses, il y a différentes qualités de graisses, différentes origines de graisses par rapport aux graisses animales et aux graisses végétales. C'est de la chimie alimentaire, en fait, et ces graisses n'ont pas les mêmes effets sur nos artères. Donc, on insiste plus maintenant sur la qualité des matières grasses en faisant une distinction, par exemple, entre l'huile d'olive ou l'huile de colza, qui sont considérées comme des bonnes graisses, parce qu'avec une bonne composition en acide gras, et puis les mauvaises graisses qui seraient plus des graisses animales qu'on déconseille.
Donc ce serait une idée de modifier en fait la pyramide alimentaire pour mettre certaines graisses à d'autres étages que là où elles sont actuellement?
Non, on laisserait quand même la répartition parce que le pourcentage de matières grasses recommandées dans notre alimentation ne change pas tellement, donc la quantité ne change pas tellement, mais on précise peut-être plus, il y a des précisions plus importantes sur la qualité des graisses qui sont recommandées.
Donc qualité des graisses, ça veut dire huile d'olive, huile de colza, mais en même temps aussi huile d'olive, huile de colza, qui soit bio, etc., etc.
Alors le bio, ça c'est encore un autre aspect qui est plus en lien avec l'écologie que la nutrition. On a assez peu de données scientifiques, on est assez prudent maintenant pour savoir est-ce que les produits bio sont vraiment nutritionnellement, donc quand on regarde vraiment par rapport aux acides gras meilleurs que les produits non bio, actuellement c'est plutôt des critères par rapport aux pesticides, par rapport à l'écologie qui sont très importants. Important aussi. Mais au niveau nutritionnel, on a assez peu d'études qui montrent la différence. C'est un peu un autre aspect.
Alors, vous êtes diététicienne. Les gens qui viennent vous consulter, souvent, dans la majorité des cas, j'imagine que c'est pour perdre du poids. Les graisses, on doit continuer à en manger, même quand on veut perdre du poids. C'est indispensable, les graisses à notre alimentation.
Oui, les graisses sont indispensables à notre alimentation. Donc, on en a besoin pour différentes fonctions qui sont très, très importantes. La mode du light commence vraiment à passer, et tant mieux. Donc, on insiste évidemment sur la quantité des matières grasses, parce que la matière grasse apporte beaucoup de calories. Donc, quand on veut perdre du poids, on doit faire attention aux quantités de calories qui sont consommées. Mais on insiste pour que la quantité de matière grasse qu'on garde et qu'on consomme soit de bonne qualité.
Alors dans les assiettes traditionnelles, on retrouve souvent un féculent, un légume et un morceau de viande ou de poisson. C'est un schéma que vous approuvez?
Oui, cet équilibre du repas, il reste idéal. Et puis, on essaye de l'adapter en fonction de chaque situation, des personnes qui consomment le repas de midi, peut-être à l'extérieur ou en famille. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'adapter la pyramide pour qu'elle ressemble et puis qu'elle puisse être le plus pratique possible dans les habitudes alimentaires de chacun.
Et les végétariens qui disent qu'il est carrément bon d'oublier la viande, notamment à cause de la graisse, qu'est-ce que vous répondez?
Alors, on peut très bien être végétarien, ne pas manger de viande si celle-ci est remplacée par d'autres aliments qui apportent des protéines. Donc ça, c'est aussi une nouveauté dans la pyramide 2011, c'est qu'on a ajouté une image avec des protéines végétales, comme le tofu, les légumineuses, qui ne figuraient pas vraiment, qui n'étaient pas vraiment mis en avant dans les anciennes pyramides. Donc c'est vrai qu'aussi pour des raisons écologiques, actuellement, on recommande de plutôt limiter la consommation de viande, on parle de 2-3 fois par semaine, et puis de la remplacer par d'autres sources de protéines.
Alors d'autres sources de protéines, le poisson, oui, mais en même temps il y a de la surpêche, on les remplace par quoi alors? Du fromage, mais c'est gras?
C'est vrai que la consommation de poisson devient difficile par rapport aux problèmes écologiques, donc on essaye de favoriser peut-être des poissons aussi de la région par saison. Alors après tout ce qui est produits laitiers évidemment, et puis justement ces protéines végétales, les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, le tofu, des choses comme ça pour essayer de varier au plus sa source de protéines.
Et quels sont les domaines de recherche auxquels s'intéressent les spécialistes de nutrition en ce moment? Est-ce qu'il y a des grandes nouveautés sur lesquelles on se penche?
Alors, il y a toujours beaucoup de recherches, mais c'est vrai que tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires, prévention des cancers, donc il y a beaucoup d'études sur la qualité des matières grasses, sur les petites substances, sur les vitamines, les oligo-éléments, ces micronutriments aussi, donc pas mal de recherches là-dessus. On travaille aussi beaucoup maintenant sur le comportement alimentaire, donc la pyramide, on voit qu'elle commence quand même à être connu, l'équilibre alimentaire aussi, mais de parler un peu du comportement alimentaire par rapport à la faim, par rapport à la satiété, que les gens réapprennent ou apprennent à respecter leur sensation de faim, de rassasiement. On sait aussi que la régulation de l'appétit, c'est quelque chose qui est très très complexe, il y a beaucoup de recherches aussi là-dessus. Et on sait maintenant qu'il y a des liens avec des centres de récompense de notre cerveau. Donc, l'alimentation est vraiment reliée à beaucoup de facteurs. Et puis, cette régulation de l'appétit, cette régulation de la faim est quelque chose qui est très, très complexe. Et il y a pas mal d'études là-dessus maintenant.